à Rencontre spirituelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui est décédé en 1962, en ce jour, le 20 septembre, un Québécois, le père Donat Gariépy, un jésuite qui était missionnaire en Chine et qui a laissé dans sa communauté le souvenir d'un homme exceptionnel sur le plan de la prière et du dévouement et de la douceur de vivre. Et quelqu'un de joyeux aussi, qui avait de l'humour. Un jésuite remarquable que certains, même aujourd'hui chez les jésuites, comme on me le disait hier, qui a laissé le souvenir d'un saint. Un saint simple, mais un saint vrai. Le père Donat Gariépy, jésuite. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Si vous allez à la messe aujourd'hui, vous verrez qu'en fait, les saints André Kim, Paul Chong et leurs compagnons ont des saints coréens, dont j'aurai le plaisir de vous parler une autre année. Ce sont des saints remarquables. Il y a des ouvrages très intéressants sur ces saints coréens, qui sont le fruit assez récent finalement de l'Église de Corée. Ils sont morts au siècle dernier, lors des persécutions de 1839, 1846 et 1866. Je dédie cette émission aujourd'hui à tous mes anciens professeurs jésuites au collège Jean de Brébeuf, où est décédé d'ailleurs le père Donat Gariépy. C'est ma 299e émission aujourd'hui, la 300e évidemment lundi. Et je la dédie donc à tous ces jésuites qui, au cours des années de collège, ont presque tous été d'un grand dévouement et d'une grande compréhension aussi. En Chine, où le père Donat Gariépy a vécu 14 ans, les élèves du collège de Suzhou l'avaient bien compris. Ils l'appelaient couramment le Shenzhen, c'est-à-dire le saint homme. Mais pour le chinois, Shenzhen peut signifier aussi simplement le saint, tout court. Ce père Donat Gariépy, qui s'est éteint à l'infirmerie du collège Jean de Brébeuf, donc à Montréal, comme chacun sait, c'est à Côte-des-Neiges, sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, 3200 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, le 20 septembre 1962, il y a 34 ans, il est mort à 78 ans. C'est un fait reconnu. Il était, je vous l'ai dit, un grand priant, et comme me disait quelqu'un aussi il y a quelques jours, un bon vivant. Oui, un bon vivant. Il y a des saints qui sont des bons vivants. Le premier des Gariépy à s'installer à Saint-Lin, non loin de Montréal, n'est-ce pas? C'est le grand-père de Donat Gariépy. Il y a construit la maison paternelle. Le père de Donat s'appelait Jean-Baptiste. Il a pris la relève sur la terre. Il a épousé une institutrice du village, Edwige Gagnon, ou Edwige, si vous préférez, mais on prononce ici, au Québec, on prononce Edwige Gagnon, qui lui donne 8 garçons. Et Donat est né le 8 avril 1884. Il était le 7e enfant. Le 7e. Il a grandi sur la terre paternelle, qui est en plein développement. Puis il a formé, avec son frère Anselme, plus âgé d'un an et demi, une espèce de couple inséparable, de bons amis. On les voyait toujours ensemble. Donat Gariépy est d'ailleurs demeuré attaché à sa famille toute sa vie. Il évitait d'ailleurs les querelles. Il fuit les propos grossiers. Il possède déjà une espèce de sérénité qui va l'habiter toute sa vie. Si on voulait le provoquer ou le mettre en colère, c'était peine perdue. Il avait un moyen de défense qui va l'accompagner jusqu'à sa mort. Il aimait taquiner. Il le faisait finement, sans accroc à la charité. Sans accroc à la charité. C'est rare dans les communautés, souvent. C'est pas facile de taquiner sans blesser. Il prend sa part de travail sur la ferme, mais on sent que ça ne l'intéresse vraiment pas. Mais il apprécie les beautés de la nature. Il était vraiment attaché, comme je vous ai dit, au sol natal. Quelques 50 ans plus tard, à son retour de Chine, Il va monter jusqu'au haut de la terre, comme on dit, et là, il va pleurer. À sa mère, qui lui offrait des douceurs, quand il était jeune, il suggérait, oh, « Donnez-les donc aux autres, j'en ai pas besoin. » Un jour s'amène à Saint-Lin deux jésuites. Madame Gariepy est profondément émue par l'appel que ces jésuites ont lancé. Il manque de prêtres, et chaque famille devrait donner un prêtre à l'Église. Chaque famille, imaginez, on est loin de ça aujourd'hui. Si bien que Madame Gariepy rassemble un jour les deux inséparables, Anselme et Donna. Vous voulez envoyer l'un de vous au collège. Lequel? Ça va nous forcer. Nous ne sommes pas riches. Il faudra travailler bien ferme. S'il y avait moyen de faire un prêtre, on ne veut pas vous pousser, mais si vous aviez la vocation. Et après un moment de silence, Anselme dit « Envoyez donc Donna ». Et alors, Donna va donc à Montréal étudier à l'école normale Jacques Cartier. C'était un pensionnat dans ce temps-là. Et Donna fréquente l'école normale de septembre 1901 à juin 1904, jusqu'à 20 ans et 2 ans de théorie, donc, et 1 an de pratique. Il se tire d'affaires. Selon les archives de l'institution, il décroche chaque année le premier prix d'excellence. Mais comment expliquer que Donna soit allé à l'école normale plutôt qu'au séminaire? On pourrait croire que Dieu a voulu l'amener ainsi à connaître la compagnie de Jésus, car tout comme aujourd'hui, au moment où ce texte a été écrit, l'école normale, Jacques Cartier, se trouvait à proximité de l'église de l'Immaculée-Conception. Et sans doute, il y rencontre des jésuites, et d'ailleurs l'aumônier de l'école est un jésuite, et chose certaine, il tient la compagnie en haute estime. Il dit, si j'entre en religion, avait-il confié à son frère Anselme, ce sera chez les jésuites. Et c'est ce qu'il a fait. Sa décision semble avoir été prise en 1904, donc à 20 ans. Et le 24 septembre 1906, deux ans plus tard, de bon matin, Donna pressait du foin avec ses frères sur la ferme. Lorsque subitement, comme ça, il abandonne le travail. On lui dit, mais où vas-tu? Il répond, je vais m'habiller, je m'en vais. Et quelques instants après, il roulait sur la route Saint-Lin-Montréal, dans la carriole qui était conduite par son père, accompagné de Jean-Baptiste le Benjamin, le plus jeune. Et ce fut parfait dès le début. C'est un témoignage d'un contemporain qui résume le comportement extérieur du novice Donna Gariepy, novice jésuite. Dès son arrivée à la maison Saint-Joseph, ce noviciat, situé à Montréal, il avait la modestie, la piété, la conformité au règlement, à la vie commune. Il écrit dans une lettre, « À l'époque du 24 septembre 1906, je rejeunais peut-être bien différemment. J'étais loin de croire alors que les tempêtes du monde moral peuvent avoir une fin. » Et il ajoute aujourd'hui, « C'est ma récompense de pouvoir rester inébranlable au milieu de tout ce qui se passe autour de nous. » Il expose alors à ses parents le couronnement du travail accompli, les vœux de religion. Il termine par l'expression du don total. Enfin, c'en est fait, dit-il, tout est donné, je n'ai plus rien, rien que mes misères. Ce matin, je me suis dépouillé de tout. J'ai renoncé à tout ce que j'avais ou pouvais avoir. Enfin, je me suis offert pleinement et sans réserve, demandant la bonté divine de vouloir bien agréer une aussi humble offrande. Et l'offrande est maintenant faite. Les obligations sont promises. Il ne reste plus qu'à les accomplir avec fidélité et constance. Oh, c'est là le point difficile. Hein? C'est dans une lettre datée du 29 septembre 1908. La vie spirituelle de Donna Gariepy, je vais l'appeler maintenant le père Gariepy, a réellement eu pour base un engagement personnel. Hein? C'est un engagement personnel qui est fait en pleine liberté. Et ses vœux émis, bien le père Gariepy entreprend, à la suite des autres, sa longue formation de jésuite. Il consacre en premier lieu deux années à l'étude des humanités gréco-latines dans la même maison Saint-Joseph. En 1910, il commence un stage d'enseignement comme professeur d'éléments latins au collège Sainte-Marie. C'était à côté de l'église du Jésus, ça, sur la rue Bleury, au sud de Sainte-Catherine. Cette belle église du Jésus, là, c'était la chapelle du collège. Il est donc allé dans cette chapelle. Mais à cause d'un certain manque d'autorité, les supérieurs le nomment troisième surveillant de récréation, puis un peu plus tard, assistant économe, et suivent trois années de philosophie au Scolastica de l'Immaculée Conception à Montréal. C'était près, je crois, de l'église de l'Immaculée Conception, n'est-ce pas? Bien qu'en Montréal, dans l'Est, là, près de Papineau. C'était, on l'avait déjà constaté, un piocheur acharné. Hein. Après un séjour d'un an au collège Loyola, ou Loyola, de Montréal, il revient au Scholastica pour l'étude de la théologie. Il était ordonné prêtre en 1918. Il écrit « Dans certains cas, il y a un bonheur à vivre dans l'espérance qu'on ne trouve pas une fois en possession du bien désiré. J'avoue que le prêtre, en recevant l'ordination, ne doit pas chercher sa propre consolation ou sa satisfaction. De plus grands et plus hauts intérêts le guident. Prêtre, il le devient pour prendre et garder charge d'âme. » Alors, la théologie terminée, on l'envoie au Collège du Sacré-Cœur à Sudbury, en Ontario, où pendant 2 ans, il enseigne à des élèves de méthode. En août 1921, le père Gariepy exerce un ministère à Québec, quand il apprend subitement qu'il doit s'embarquer, à 2 jours d'intervalle, sur le paquebot Empress of Britain. On en parlait beaucoup de ce paquebot dans ce temps-là. En partance pour l'Europe, il ira faire son 3e an, comme on dit chez les Jésuites, en Belgique, à Florennes. Il n'a même pas le temps de saluer sa vieille mère. Il revient au Canada en août 1922. Il est content de son année pour l'expérience gagnée, comme il dit, et même pour les petits plaisirs goûtés. À 38 ans, prend enfin sa formation de jésuite. Alors le père Gariepy, bien que très discret avec ses confrères sur les agissements de sa famille, il en éprouve pas moins pour elle une affection vraiment profonde, et ses nombreuses lettres en font foi. Il est très attaché à sa famille. Le père se tenait donc au courant de ce qui se passait chez les siens. Il les harcelait de questions sur leur santé, comment ils allaient. Il priait pour eux. Plus tard, de la Chine lointaine, il leur écrit des lignes où on voit qu'il mêle et l'humain et le surnaturel. Il dit, « Saviez-vous que je fais chaque jour de l'an, au matin, de très bonne heure? Savez-vous ce que je fais? Je vais vous le dire. Si loin que je sois du Canada, je me retourne néanmoins vers ce beau pays. Et je dirige ma pensée et mon cœur vers Saint-Lin. Et parcourant tour de rôle, en commençant par les plus vieilles, chacune de vos familles, eh bien, je trace un grand signe de croix sur chacune d'elles, en prononçant les paroles ordinaires qui accompagnent les bénédictions de ce genre. Et à la messe qui suit, eh bien, ce sont les mêmes demandes. » Alors, sans contredit, c'est à sa mère qu'il a écrit des textes remarquables par la richesse de sentiments. Et puis, à une lettre d'elle qui lui fut remise après sa retraite de 30 jours, il répond « C'est beau d'avoir sacrifié un fils, maman. Même s'il n'est pas le premier de la famille, mais c'est peut-être un sacrifice plus beau encore que de ne vouloir plus le reprendre après l'avoir cédé. » Il écrit ça en 1912. Il a bien raison. Et alors, toujours à sa mère, il dit « Ce n'est pas par crainte de vos propres craintes que nous demandons à Dieu d'éloigner de vous la mort, mais c'est parce que votre tâche ne nous semble pas encore totalement achevée sur cette terre. Et quand vos enfants et vos petits-enfants auront épuisé tous vos soins, ne croyez pas, bien chère maman, que votre rôle est fini, que vous êtes devenu inutile au milieu d'eux. Non, 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 non. Restez-leur pour être leur cause de joie et de vertu, en étant le centre de leur affection, de tous leurs actes et respects et de piété filiale. » Et le père Gariepy a donc manifestement aimé les siens. Et cet amour du sol natal, voilà le grand sacrifice que Dieu lui demande en l'appelant à la vie religieuse. Et nous verrons tout à l'heure comment la progression de cette âme vers Dieu va se faire petit à petit, particulièrement en Chine. Écrit du père Gariepy, Le père Gariepy a laissé chez moi un profond souvenir. Un saint ou bien près. Un homme équilibré parfaitement. Il avait du jugement surtout. Oh, rien de brillant, mais une solidité, une clarté. Et je le répète, un équilibre parfait. Alors, il était plutôt maigre d'apparence, le père Gariepy. Il avait une taille moyenne. Un visage au nez légèrement aquilin, au menton pointu, des yeux gris-bleus, habituellement sérieux, mais qui faisaient... Ses yeux devenaient facilement rieurs. Hein? Puis il avait une démarche rapide. Il était énergique. Mais quand son état de santé... Il décrit son état de santé ainsi, « homme de santé médiocre, mais jamais malade ». Il était comme ça en 1953. Au point de vue, ça c'est 9 ans avant sa mort, mais il y a pas tombé malade, vous verrez. Au point de vue aptitude, il se dépeint comme, il dit, assez intelligent mais pas brillant. Ce n'est pas moi qui pourrais avoir des idées neuves. Je ne suis pas homme non plus à me lancer et à prendre des initiatives. C'est un prédicateur. On l'estime, non pas parce qu'il est vivant, mais à cause de son érudition. Ses sermons sont nourris, sa doctrine puisée dans l'esprit de l'Église et de la compagnie de Jésus, les Jésuites. Il est animé d'une sagesse surnaturelle, hein? Puis il la communique avec certitude. Il est confesseur de la communauté, il est très apprécié, il a un grand don de discrétion. Il se montre encourageant et miséricordieux. Il considère les petites fautes au confessionnal comme de petites fautes, mais... Il ajoute, et c'est très important, même un grain de poussière, il faut l'enlever. C'est vrai que si on veut avoir une machine huilée, si on veut avoir une âme qui reçoit le Christ d'une façon la plus parfaite possible, il faut bien retirer ces grains de poussière, et même un grain de poussière, il faut l'enlever. Alors ces exhortations au père Gariepy sont bien reçues, parce que bien présenté, et surtout parce qu'on sait que le père Gariepy vit intensément ce qu'il expose. La douceur, la charité du père sont inaltérables, jamais une saute d'humeur, toujours un bon sourire pour accueillir un désagrément. L'amour de son prochain le porte à rendre service à tout le monde, autant qu'il le peut. Il écrit à ce sujet le 30 novembre 1936, il a 52 ans, « Cette année, comme toutes celles qui l'ont précédée, a été vraiment courte. Et plus les années s'ajoutent aux années, bien plus il est facile de se rendre compte que l'important, ce n'est pas tant de vivre ici ou là, mais de faire la sainte volonté de Dieu, dont l'accomplissement est le moyen sanctificateur par excellence, et en même temps la source la plus féconde de joie et de paix. Il est heureux quand on l'ignore. » Quand on l'oublie. Chez lui, il y a une simplicité poussée à l'extrême, qui incite ses confrères même à le croire un peu crédule. Mais il n'en a que l'air. Hein? Il impressionne plutôt par son attitude de petit serviteur à l'égard de Dieu et du prochain. En Chine, on lui demande un jour, vous verrez ça plus tard, faute de prédicateur, qui durant la période de l'occupation japonaise, on lui demande donc de donner les exercices spirituels de Saint-Ignace aux sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception dont il est le chapelain, à Suzhou. Le père obéit, sachant bien que les sœurs de l'Immaculée Conception seront déçues, car elles entendent ses sermons toute l'année. Il se présente devant l'auditoire des sœurs, puis il dit « La Providence vous impose un désappointement. » Mais il respire une telle humilité, une humilité si simple et si digne, en même temps qu'exempte de tout trouble ou malaise, qu'il paraît à une des retraitantes, une des sœurs, que notre Seigneur en personne aurait eu semblable attitude. La piété du père Gariepy éclate aux yeux de tous. Tout au long de sa vie, il a eu l'impression qu'il était toujours en... On avait l'impression plutôt qu'il était toujours en prière, hein? Il y a une boutade d'un jeune jésuite qui est très sympathique. Ce jeune jésuite disait, on ne peut pas être seul à seul avec notre Seigneur devant le tabernacle, le père Gariepy est toujours là. Même en Chine, on taquine à propos de sa présence prolongée dans la grande église de Suzhou. Suzhou, vous savez, c'est ce S-U-Tréma, C-H-O-W, ainsi qu'on l'appelait dans ce temps-là. Ça a changé probablement, les appellations chinoises ont changé. On disait, vous faites semblant de prier, mais vous allez bénéficier de la fraîcheur des murs, Père Gariepi, quand nous autres, nous suons dans nos chambres. Alors le Père Gariepi rétorque promptement, vous n'avez qu'à venir avec moi. Ou bien il répond aussi, vous avez raison, changeons donc de travail l'un l'autre. Ces plaisanteries joyeuses font donc sourire le bon Père Gariepi, mais ça modifie en rien ses habitudes. Il ne se laisse pas influencer par le respect humain, pas plus que par les compliments, et il paraît même indifférent. Et cet entêtement, dans le bon sens du mot, laisse deviner chez lui de la persévérance héroïque parfois, à tenir ses résolutions solides. Son attitude à la chapelle, eh bien, il s'y tenait à genoux, bien droit, et sans appui. Essayez ça, ça fait mal aux reins, c'est quelque chose d'épouvantable, c'est pas facile, hein? J'ai été obligé de faire ça quand j'étais novice à Saint-Benoît-du-Lac. On n'avait pas d'appui, nous les jeunes. On s'agenouillait à 18, 19, 20 ans, là, et on restait là pendant des litanies, des saints, des choses interminables. C'était très dur. Alors qu'il a 70 ans, les jambes enflées, eh bien, à un père qui lui laisse entendre que, vu son état de santé, il exagère ce genre de dévotion, il confie que c'est moins facile que ça en a l'air. Mais il persiste quand même dans sa piété héroïque. Il a foi dans la mortification corporelle. Pas par sadisme, mais par formation. C'est une formation pour lui. Rien ne transpire de ce qu'il pratique en secret, dit-on. Il reste cependant dans les limites de la prudence, suffisamment pour conserver ses forces jusqu'à la dernière maladie. Et quant à son esprit de pauvreté, il a, pour ainsi dire, le mépris de ses aises, et à son retour du Japon, il doit faire par train imaginer le voyage de San Francisco à Montréal. Eh bien, il ne prend pas de lit par esprit de pauvreté. C'est un homme régulier, équilibré, et comme je vous ai dit au début, bon vivant, hein? En Chine, chaque matin, à 6h30 précise, il célèbre la messe au couvent des sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, dont il est le chapelain. Or, un matin, la pluie est tombée sans arrêt. Toute la nuit durant. Elle continue de plus belle, si bien que le chemin est devenu une espèce de torrent. Et sur la rive, le père Gariepi examine la situation, il relève sa soutane, finalement, il enlève ses bas, ses chaussettes, si vous voulez, et ses chaussures. Il franchit l'obstacle, il se présente au couvent des sœurs à l'heure précise et convenue. On le voit toujours au rassemblement communautaire, il est gai et récréation. Car il sait rire, il aime rire. Un saint riant, il si rare. Je suppose qu'ils riaient tous, mais on n'en parle à peu près jamais. Hein? C'est le bon compagnon, le père Gariepi, qu'on veut taquiner. Il se tire bien d'affaire, car lui aussi il taquine, et finement, comme je vous ai dit. Et sa largeur d'esprit lui fait apprécier le beau côté de la vie. Malade sur son vieil âge, il sait goûter un verre de bière froide, qui le restaure. Et chez lui, aucun excès, dans un sens ou dans un autre. Je vous rappelle toutefois son origine paysanne, c'est un fils de la terre, à Saint-Lin. Il a hérité de cet équilibre que confère la vie simple et régulière, équilibre, un équilibre intensifié par sa vie très religieuse. Le père Gariepi s'en va vivre dans l'ouest du Canada, au Manitoba, où pendant 4 ans, de 1923 à 27, il se dépense à toutes sortes de tâches, au collège de Saint-Boniface. Et comme preuve de la bonne influence qu'il a exercée sur ses élèves, voici un témoignage d'un groupe de finissants, à cette époque, hein, vers 26-27, en 27. Témoignage d'un groupe de finissants, donc des francophones, et qui s'est tenu en relation avec lui jusqu'en 1962, année de sa mort. Mais ils se sont anglicisés avec le temps, alors leur témoignage est en anglais, je vous le lis tel quel. Il date de 63, donc plus de 30 ans plus tard, 35 ans plus tard. Seven students graduated in the 1927 class, and three of them became priests. Each year, five of us who live in Winnipeg get together for the annual graduation dinner, and we always reminisce about our good friend and teacher, Father Gariepi. Je traduis, sept étudiants qui ont obtenu leur diplôme en 1927 et trois d'entre eux sont devenus prêtres. Et chaque année, cinq parmi nous, qui vivons à Winnipeg, eh bien nous nous réunissons pour un dîner annuel à l'occasion de cette obtention du diplôme. Et toujours, nous nous souvenons à chaque année de ce bon ami, de ce bon professeur, le père Gariepy. En 1927, le père devient recteur du collège du Sacré-Cœur à Sudbury, en Ontario, où il est retourné, tout en continuant à enseigner la philosophie. De nature hésitante, il était relativement peu doué pour le commandement. Il faisait pas nécessairement un bon recteur, mais il demeure cependant optimiste. En août 1930, il revient à Montréal. On l'a nommé professeur de philosophie, c'est-à-dire, comme on disait dans le temps, de théodicée au Scholastica de l'Immaculée Conception. En 1935, pendant que le père dispense ses connaissances théologiques, survient la surprise de sa vie. Là-bas, en Chine, dans la mission de Suzhou confiée aux jésuites québécois, le père Georges Marin, supérieur, sentait la nécessité de la présence d'un bon père spirituel, plus âgé que lui-même et que les autres jésuites qui l'entouraient. Et en qui tous ces jésuites-là pourraient avoir confiance? Alors il demande donc au père provincial, le père, fameux père Adélard Dugré, de lui trouver le sujet en question. Et le père Gariepy paraît qualifié pour ce poste. Alors consulté, il accepte le changement de vie, mais c'est pour lui à la fois une cause d'étonnement et un gros choc. Il se croyait fixé dans l'enseignement de la théologie, et au Scholastica comme ailleurs, la nomination impressionne profondément. Est-ce qu'un homme de 51 ans va abandonner une vie de tout repos au risque d'une adaptation difficile? Les coutumes, la langue chinoise, tout ça? Alors, il se soumet à ce que Dieu veut de lui, et il va partir pour la Chine, comme nous allons voir tout à l'heure, faisant un ministère exemplaire là-bas pendant 14 ans. Qui fait donc partie d'un contingent de 8 missionnaires jésuites, 4 prêtres, 2 scolastiques, 2 frères coadjuteurs qui vont quitter Montréal le 12 septembre 1935 pour se rendre en Chine. Donc. Le père demeure là-bas, comme je vous ai dit, 14 ans, c'est-à-dire du 9 octobre 1935 au 16 mai 1949, donc pendant la guerre. Au cours de ce long séjour, la mission de Suzhou est bouleversée par trois guerres, justement. La guerre sino-japonaise, là, qui débute en 1937, la Chine et le Japon. Ensuite, la guerre du Japon et des États-Unis, terrible guerre, qui est déclenchée à la suite de l'incident de Pearl Harbor sur la côte du Pacifique, le 8 décembre 1941. Je m'en souviens comme si c'était hier, ça. De cet événement. Ah, quel choc ça nous avait fait! Alors ça entraîne l'internement des jésuites. Et enfin, la guerre civile, qui assure finalement la domination communiste. Et c'est la cause de l'abandon forcé de la mission des jésuites, parce que les jésuites sont évidemment chassés par les communistes. Le 12 octobre, donc, revenons au départ. Le 12 octobre 1935, il arrive à son poste à Suzhou. C'est une ville située, ça, à 500 milles au nord de Shanghai, à l'intérieur du pays. Avec quelle disposition morale est-ce qu'il entreprend sa vie nouvelle? Bien, il nous le dit dans des lignes rédigées quelques semaines plus tard. Il dit, je ne songe pas à m'ennuyer, la principale cause de ce calme, de ce bonheur même, pourrais-je dire, c'est peut-être un peu le fait d'être venu déterminé, résolu, sans illusion, sans fol enthousiasme, disons le mot, pour l'amour de Dieu. Il est venu là pour l'amour de Dieu. Je serai ici, père spirituel, confesseur et chapelain des sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception de Montréal. Je serai bibliothécaire, etc. Et j'essaierai en plus d'apprendre le chinois. Il n'y parviendra pas. Trop vieux. Mais il est plus que cela. Il devient, pour ainsi dire, un des rouages nécessaires et importants du centre de Suzhou. Et en effet, le père Gariepy est un aide précieux, indispensable pour Mgr Philippe Côté, qui a été nommé, un jésuite qui a été nommé évêque en 1935, lorsque la mission est devenue vicariat apostolique. En tout ce qui concerne, là, il est indispensable en tout ce qui concerne les questions théologiques, les questions morales, les questions liturgiques, même les cas de casuistique missionnaire.
C'est le cas de Maurras, un peu compliqué la casuistique. Et c'est l'homme de recherche du centre. Depuis, en 1939, il devient vice-recteur du Collège Saint-Louis, puis le demeure jusqu'en 1943. Le père Gariépy s'occupe surtout de l'administration matérielle. Il sait prévoir les besoins de chacun, et sa présence dans cette institution, ça constitue un réconfort pour tous les religieux. Il enseigne, d'autre part, le latin et le français aux séminaristes chinois. Il donne les exercices spirituels de Saint-Ignace aux missionnaires, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il prêche en latin des retraites aux prêtres chinois. Durant la période de vacances des élèves, il va, à l'occasion, remplacer un missionnaire de district une semaine ou deux durant. Monseigneur Côté le délègue parfois pour des tournées de confirmation dans la mission. Il importe de souligner, d'ailleurs, ses nombreuses sessions de confession. C'est très important. Il bapucie le chinois. Il le comprend peu, mais chaque matin, on le voit dans la grande église de Suzhou, aux heures des messes. Et malgré son handicap, les Chinois vont à lui. D'autre part, comme il est atteint de surdité à une oreille, imaginez, il n'entend que d'une seule oreille dans un confessionnal, c'est pas facile, mais il doit se tordre le corps pour entendre les pénitents, pour pas les forcer à parler trop fort, sans ça tout le monde va entendre leur péché. Il dit, j'ai une oreille qui entendu depuis assez longtemps. C'est l'autre qui fait, sans se plaindre, le travail des deux, surtout au confessionnal. Alors voilà toute la besogne qu'abat sans bruit le père Dona Gariépy. Quant à son comportement de religieux, il fait d'habiter au centre, ça favorise sa vie intérieure. Tout comme au Canada et au Québec, il fait de longues stations dans la chapelle ou dans l'église. Il se fixe même une heure d'adoration chaque soir, une heure. Sa vie est exemplaire de régularité. Les missionnaires l'aiment à cause de sa douceur, de sa grande gentillesse. La difficulté éprouvée par le père Gariépy dans l'étude du chinois s'est passée à la légende parmi ses collègues. Dès la première leçon, il a deux professeurs, on lui apporte un nombre imposant de manuels, puis on lui dit « Tenez, père, vous n'êtes pas obligé d'apprendre tout cela, mais si le cœur vous en dit, dans vos temps libres... » Et là, le père Gariépy répond avec un trémolo dans la voix, « Vous savez, mon père, j'ai 51 ans, et je n'entends pas très bien. » Mais parce que pour apprendre le chinois, il faut très bien entendre. Vous savez qu'il y a des tons différents et tout ça, et le même mot a un ton différent veut dire autre chose. Et il ajoute, « Je suppose que quand j'aurai appris tout ça, on me renverra au Canada. » Alors, malgré ses efforts répétés, la connaissance de la langue lui est quasi impossible. Il dit, je commence à bulbicier un peu de chinois. Je me suis même risqué à entendre quelques confessions. J'en arrache encore passablement, mais avec la grâce de Dieu, j'espère que je viendrai à bout de remplir convenablement ce ministère. Mais il persévère. Hein? Et son devoir le lui commande. Il dit, c'est pas un simple amusement. C'est ce qu'il dit. Quand on a un certain âge, mais il vaut la peine qu'on s'y adonne avec courage, quand c'est pour la cause de Dieu. Un bon ami le taquine un jour quand il le rencontre dans le jardin, où le père va régulièrement l'après-midi pour étudier dans son manuel élémentaire de chinois. Où en êtes-vous rendu? Et avec un sourire, le père Gariépy répond, je fais beaucoup de progrès. Je suis déjà rendu à la 40e leçon, mais j'ai maintenant oublié les 20 premières. Il doit un jour aller à Pékin, à Piping, comme on dit aujourd'hui. Il prêchait une retraite à l'école de langue. Il voyage seul. Mais arrivé, écoutez bien ça, à destination, le soir, il n'est pas capable de se faire comprendre. Alors, il passe la nuit à chercher Chabanel Hall. C'est une mésaventure qui lui vaut longtemps des taquineries de ses confrères. Hein? Et en 1941, 6 ans après son arrivée, il va écrire, « Et puis, il me faut toujours travailler à apprendre le chinois et comprendre ceux qui me parlent et me faire comprendre d'eux. » Il y a 57 ans, ce n'est pas aussi facile qu'à 20 et 30 ans. Oh, mes yeux ont un peu plus de misère à voir et à lire les caractères chinois qui sont trop petits ou trop compliqués. Alors, le brave père fait l'admiration de tous. Mais on peut dire qu'il fait aussi l'admiration de Dieu. Les lettres du père Gariépy, écrites dans un style simple, sont toutes émaillées, c'est assez amusant, de descriptions qui témoignent chez lui d'un don d'observation remarquable. Je vous cite une lettre. « Ma tournée de confirmation, vous savez, son évêque, là, Monseigneur Côté, l'envoyait faire des tournées de confirmation. pour confirmer les jeunes, ou les convertis, qui avaient été baptisés. Ma tournée de confirmation s'effectua en char à mule, que vous appelleriez un attirail. Vous voyez que s'il y a des raisons de s'enorgueillir de ses charges ou dignités, il n'en a guère d'être fier de sa monture. C'est en même temps vous dire qu'il me faut bénir le bon Dieu de m'avoir permis de faire quelques tours de charrette au champ dans mon jeune âge à Saint-Lin. Il m'est plus facile ainsi de me réhabituer à me faire sauter et tressauter dans ce cabaret de char sur les routes chaotiques de Chine à travers la campagne en cette saison labourée, hercée, déjà semée, légèrement verte de la première pousse de son blé d'automne. Rien d'excellent comme ces voyages en char à mule pour exercer la patience, pour apprendre à n'être pas pressé, et aussi pour apprendre à réciter plusieurs fois son chapelet, car que faire en un tel char des heures durant, sinon prier? Le père Gariepy, je vous l'ai déjà mentionné, a connu la Chine en période de guerre. Dans ses écrits, il fait montre de surnaturel, mais montre aussi de commisération. Il se révèle un historien consciencieux des épreuves qui s'abattent sans arrêt sur la mission de Souchan. Faut-il enfin vous parler de l'épreuve actuelle, écrit-il, l'épreuve actuelle de la Chine, la guerre? Il est à peine besoin de parler de la misère et de la souffrance du grand nombre, tant c'est là un spectacle ordinaire. C'est dans sa lettre du 13 novembre, durant la guerre sino-japonaise. Mais avec l'événement de Pearl Harbor le 8 décembre 1941, les missionnaires peuvent s'attendre au pire. Ils sont considérés alors comme sujets britanniques, viennent du Canada. Ils sont en guerre, l'Angleterre est en guerre contre le Japon. Alors, ils sont laissés en liberté, mais de façon extrêmement dure, même que plus tard, quand ils seront en prison, ils trouveront ça peut-être plus facile. Dans une lettre du 14 avril 1942, le père Donat Gariepy fait un exposé lumineux de la situation. Le problème angoissant, dit-il, des capitaux gelés prive la mission de revenus et de voyages, de sorte que, à Souchan, comme dans la brousse, les missionnaires sont, pour ainsi dire, rivés sur place. Puis il avait peur des bombardements. Il n'aimait pas ça du tout. Puis vient l'internement. Les missionnaires jésuites sont internés. Et la peine dans l'âme, ils quittent la mission de Souchan pour Shanghai. Les clés du vicariat de Souchan sont transmises à des pères d'autres nationalités qui ne sont pas en guerre contre la Chine. Le 15 août 1945, le Japon capitule, c'est la fin de l'internement. Revenus au Souchan, les missionnaires trouvent une maison en décadence. Le père Gariepy en parle dans une lettre datée du 23 janvier 1946. Il écrit « Nos missions et nos chrétientés sont énormément souffert, tant au point de vue spirituel qu'au point de vue temporel. Plus peut-être, sous le premier rapport que le second, l'œuvre de reconstruction sera longue et difficile. Elle serait décourageante si l'on s'arrêtait à l'envisager avec les seuls yeux humains. » Il met toujours sa confiance en Dieu. Et cet état de désolation s'amplifie parce que le mouvement communiste profite de la guerre sino-japonaise pour s'infiltrer, comme vous le savez, n'est-ce pas, dans une Chine qui est sans chef. Et le mouvement communiste triomphe. Et en 1948, il s'établit en maître au Souchan. C'est une situation qui rend si difficile le progrès missionnaire et même tout progrès, écrit le père Gariepy le 4 novembre 1948. Alors le père Gariepy vit en Chine un grand drame intérieur. Et le 2 mai 1941, il avait écrit d'ailleurs « Je m'aperçois que je suis en retard sur tout. Je ne suis pas un découragé, cependant, et je ne voudrais pas que vous le soyez vous-même à mon sujet. La grâce de Dieu et les prières des autres surtout peuvent opérer des merveilles. » Alors, il a conservé un certain point. Sur certains points, une mentalité québécoise, un peu trop québécoise pour être un missionnaire adapté totalement. Mais père spirituel avant tout, et c'est ce qui a fait sa grande souffrance, il ne peut pas apporter de solution adéquate aux difficultés des pères. À l'un d'eux, le seul à qui parfois il parle de lui-même, il a confié ceci un jour, « Les pères ne viennent plus me voir. Je suis venu pour eux, mais personne ne vient plus à moi. Qu'est-ce que je fais ici? » Alors son confident le console de son mieux et tâche de lui expliquer la situation. Et alors, De cela, rien ne transpire à l'extérieur. Il a une humilité profonde, sentie, un grand équilibre, un héroïsme authentique qui vont éclater à toutes sortes de moments. Il quitte son Chucha en fin 1948 et nous le retrouvons à Shanghai où il est encore actif, collaboration aux œuvres, des études privées en vue de l'avenir. Il dit « Je fais aussi des écritures et du tapage à la machine pour les autres qui sont surchargés. C'est ainsi que les journées filent malgré tout. Je me vois arriver aux 65 ans. » Et les communistes aux portes de Shanghai, ben là, ils s'enfuient vers le Japon. Le 16 mai 1949. Le mal persiste, il souffre beaucoup. L'enflure des jambes. On croit qu'il est préférable de le retourner au Canada, et que guéri, bien il reviendra au Japon peut-être. La décision est acceptée avec résignation, c'est terriblement pénible. Le père envoie sans doute participer encore à la vie communautaire, il entrevoit ça, il voudrait participer à la vie missionnaire. Mais voilà que tout casse. Il a été jugé incapable, alors il doit s'en aller. Et pour clore tout ça de ses 14 ans de vie missionnaire, il écrit le 27 décembre 1949, « À l'occasion de cette nouvelle année, je me crois tout particulièrement tenu de remercier, plutôt que de demander, quand je songe surtout à la façon extraordinaire dont la Providence m'a conduit depuis Soochow jusqu'à Montréal, jusqu'à vous, en passant par Shanghai, Hong Kong, le Japon, etc. » Alors le père Gariepi quitte l'Orient, où par amour de Dieu et des âmes, il a souffert physiquement et moralement, mais son cœur y est resté. Et du Québec, il se tient en correspondance avec ses anciens compagnons d'armes, dispersés par le fait communiste, n'est-ce pas, à Formose, sont rendus à Formose, aux Philippines, au Vietnam. Et malgré la distance, il leur écrit « Je suis toujours des vôtres ». Il écrit ça même 10 ans plus tard. Son cœur est resté en Orient. Nous verrons tout à l'heure la fin de la vie du père Dona Gariepi. Il semble ignorer le besoin de se faire soigner. Au début septembre, il part en tournée dans le Québec pour faire vénérer les reliques des saints martyrs canadiens. En novembre, on le retrouve à Québec. Il fait désormais partie du personnel de la résidence rue Dauphine. Il y demeure jusqu'en mars 54. Et rue Dauphine, on peut compter sur sa grande disponibilité à entendre les confessions. Si souvent ça chez les saints, les prêtres saints sont des spécialistes, on dirait, de la confession. Il a bien averti le frère Portier à cet effet d'ailleurs. Et on a trouvé un petit carton sur lequel sont écrites de sa main les statistiques de confession entendues, échelonnées de novembre 51 à octobre 1952, donc une période d'un an. Savez-vous combien de confessions? 9180, c'est quelque chose. Il faut se rappeler d'ailleurs la surdité dont je vous ai parlé, la surdité du père, la mauvaise posture qui devait s'infliger pour entendre de la bonne oreille. Et depuis, il ne s'agit pas de confession d'enfant, là. Il arrive parfois au père Gariepi de passer pour une seule personne une heure dans le confessionnal des sourds, comme on disait, qui était quasi hermétiquement fermé, pour pas qu'on entende, puisqu'il fallait parler un peu plus fort. Puis il en ressort toujours en souriant, en souriant. En plus de faire de la prédication, ben, il dirige la congrégation de la Sainte Vierge, la section des jeunes filles, qu'il aime bien. Il y a un fait établi, le nombre de personnes qui se présentent chaque jour à la résidence, et elles y viennent pour toutes sortes de choses à demander. C'est toujours une affaire délicate, écrit le père, que d'interrompre ses discours, dont le récit semble si bien soulager ceux ou celles qui vous les racontent. Alors, une seule chose à faire, il faut écouter, 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 tout en essayant de ramener la conversation au point, ce qui est très difficile. Je sais que c'est difficile. En mars 1954, le père Gariepi quitte les hauteurs de Québec pour celles de Mont-Laurier, où en juillet, il est nommé recteur du troisième an. Il a 70 ans. La communauté souligne l'événement avec un gâteau, des chandelles, etc. C'est une fête, une fête. Et il termine son petit discours en disant que c'est une sagesse que je demande au Saint-Esprit de regarder, non pas en arrière, mais de regarder en avant, et adapter le travail à la mesure du temps qui reste dans nos pauvres vies qui s'achèvent. 2 années durant, il dirige sa petite barque. Mais le mal contre lequel il lutte depuis si longtemps l'attaque de plus en plus. Au cours de 1955, une crise le terrasse. Le cœur va flancher, toujours cette circulation difficile dans les jambes, et en février 1956, il a peine à marcher. Clopin-clopin, il vient à Montréal, il subit des traitements au rayon X. Ses jambes presque désenflées par les traitements. Son cœur replacé, qu'il faut pas tout, quand même trop maganer, comme il dit. Alors on lui interdit tout ministère, il doit se reposer, profiter du bon air. Alors il écrit avec le frère jardinier, je travaille à l'amélioration de notre parterre et jardin. Et il fait toutes sortes de travaux. Si bien qu'à la mi-mai, au beau milieu de la nuit, il est de nouveau saisi d'une faiblesse qui se manifeste par un tremblement continuel. Et Mandé, le médecin, le met naturellement au lit. Et le soir, devant son état non amélioré, il juge prudent de le faire extrémiser, comme on disait. C'est-à-dire qu'il reçoit les derniers sacrements. Pas de messe le lendemain. Il dit, on ne me permit pas de dire la messe. Ce qui fit de cette privation un sacrifice plus sensible, c'est que ce jour-là, c'était l'anniversaire de ma première messe. Alors son énergie, aidée des bons soins de la communauté, le lui aide à remonter la côte au point d'étonner les gens qui me voient debout, dit-il, marchant et ayant repris mes fonctions. Et puis, nous, on lui permet pas d'aller sur le terrain. Au cours de l'été, on rappelle le père Gariépy et on lui assigne un poste de père spirituel à Montréal. Et là, c'est au collège Jean de Brébeuf qu'il a le privilège de diriger des âmes durant les dernières années de sa vie. À son tour, la communauté est le témoin ravi du comportement de ce religieux qui est un saint, un jésuite, un saint, qui va son bonhomme de chemin sans bruit, dont l'attitude de prière est déjà passée à la légende et qui, malgré ses 70 ans bien sonnés, y prend intérêt à tout ce qui se passe dans la maison. On le voit assister aux réunions pédagogiques. Il veut connaître le pouls académique du collège. Pour lui, tout est grâce de Dieu. Aussi, quelle souplesse dans son acceptation de la vie telle qu'elle est. Les élèves, d'ailleurs, étaient habitués à la vue de ce vieillard aux cheveux blancs qui assiste dans la belle chapelle du temps. Mon Dieu, elle n'existe pour ainsi dire plus. Il assiste à toutes les cérémonies liturgiques qui discrètement se glissent parmi les spectateurs à l'occasion des grandes séances ou des séances de classe. Oui, le père Gariépy fait partie de leur petit univers. Ils sont impressionnés par sa modestie. Ils l'ont nommé le frère André, c'est son surnom. Bon juge, il les observe à l'œuvre. Un jour, il explique au père recteur que les étudiants d'aujourd'hui sont plus évolués, supérieurs à ceux de la génération précédente par leur intelligence et leur brio. Il va même jusqu'à les trouver plus délurés. Et à ses yeux, ces jeunes représentent un potentiel vraiment extraordinaire. Mais le problème des éducateurs, c'est d'en tirer parti. Et à le voir agir ainsi, on a peine à croire qu'il a été aux portes de la mort. Il marche avec des jambes enflées que cache son habit religieux, il portait la grande soutane noire dans ce temps-là, hein. Et voilà la grande leçon qu'il donne à tous, la sérénité qui l'habite, qui est le fruit de la soumission puis de l'union constante à Dieu. Fait qu'il n'est pas prisonnier de la maladie, hein. Et il se penche sur les problèmes des autres, en toute liberté. Et malgré ses nuits pratiquement sans sommeil, il en profite pour méditer. Au père recteur qui lui laisse entendre à l'occasion d'une rechute qu'il doit songer à entrevoir une fin prochaine, il répond « Je ne pense pas que ce soit tout de suite. J'ai pas assez travaillé. » Et il ajoute « En tout cas aussi longtemps qu'il sera possible de confesser ici et là selon les demandes, de visiter les malades de l'hôpital Sainte-Justine, de boucher quelques petits trous béants par suite de la maladie ou de l'empêchement d'un père, il n'est pas question de m'en abstenir. La santé, comme la vie, ça appartient à Dieu. Il faut qu'il travaille. Il n'est pas question qu'il prenne une retraite. En août 59, le mal chronique connaît une complication pénible. La mauvaise circulation fait qu'il est transporté à l'hôpital. Il dit, en voyant son lit, « Voilà mon dernier lit. Tout le monde pense de même. » Il revient finalement à Brébeuf. Se remet au pas de la communauté. On a emprisonné ses jambes dans une gaine faite de bandelettes adhésives. Les mois s'écoulent. Dieu semble vouloir conserver à la communauté cette relique vivante pour l'édification de tous. Mais au début de 1962, il paraît évident que le père Gariépy entreprend la dernière année de sa vie. Il fait encore un autre séjour à l'hôpital au mois de juin Revenu au collège, il laisse entendre dans un sourire que la maladie fait son cours. Bien oui, elle fait son cours. Au cours du mois d'août, on remarque son teint de plus en plus cireux, de plus en plus patent, son état de faiblesse. Le père recteur lui enjoint par écrit de ne plus se tenir à genoux à la chapelle, alors il se tient debout. Finalement, il accepte de s'asseoir. Et causant avec lui de choses spirituelles, un prêtre de l'extérieur, un ancien missionnaire, lui confie des messages pour le ciel. Il compte sur son influence et le père y arrive. Et puis écoute, il y a un petit sourire au coin de la bouche, il dit « Croyez-vous qu'on va m'accorder tout ça ?» Alors il circule en fauteuil roulant. On se rend sa chambre, il n'y est pas, il est devant le tabernacle. Transporté finalement à l'infirmerie, il y repose dans un calme impressionnant. Et à certains moments, son visage prend un masque qui aurait tenté bien des artistes, mais vers 4 heures de l'après-midi du 20 septembre 1962, il expire. Priez pour que tout se termine bien, c'est ce qu'il a demandé, hein, dans un désir de conformité à la volonté de Dieu, jusqu'à la fin. Il a 78 ans. Une religieuse missionnaire de l'Immaculée Conception qui a vécu en Chine en même temps que le père Gariepi a écrit « Ponctualité, délicatesse, simplicité, exquise charité, tels seraient, il me semble, les traits dominants du regretté père Dona Gariepi comme chapelain de notre communauté à Suzhou en Chine. Mais je serais tenté d'ajouter que c'est surtout depuis sa mort que j'ai touché personnellement les effets de sa puissance. Je lui en garderai une reconnaissance à jamais. » Et je termine en empruntant ces paroles qu'a prononcées le père Roland Fortin, recteur du collège Brébeuf, lors du service funèbre du père Dona Gariepi. « Même au XXe siècle, l'Église peut encore produire des saints. » C'est sûr. Pour compléter ça, vous pouvez toujours vous référer à ce livre de Jacques Langlais, le père Jacques Langlais, Les Jésuites du Québec en Chine, 1918-1955, publié aux presses de l'Université Laval en 1979. C'est un gros bouquin où il est question du Suzhou. Je voudrais terminer par un petit passage d'une prière, d'un petit texte de Saint Ignace de Loyola. L'amitié des pauvres nous vaut l'amitié du roi, et l'amour de la pauvreté nous fait roi. Ayant droit au royaume, il a eu droit au royaume, le père Dona Gariepi.